Vous écoutez France Culture, voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La liste des produits chimiques partis en fumée dans l'incendie de l'usine Lubrizol a finalement été publiée hier soir, ce qui n'a pas empêché les habitants de manifester à Rouen. Reportage de Thibault Lefèvre.
Et à Paris, ce midi, les policiers manifesteront. Ils s'inquiètent de la hausse des suicides et de la réforme des retraites. Le malaise est profond, vous entendrez le syndicat Alliance.
Ses proches feront campagne pour lui. Nabil Karoui, candidat à la présidentielle tunisienne, reste en prison. Explication de Maureen Mercier. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Huile de palme, pourquoi la consommation continue-t-elle d'augmenter? On posera la question à Pierre-Marie Aubert, il est chercheur en politique agricole.
Mais d'abord, plus de 300 pages ont été rendues publiques hier sur l'impact de la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, remplacé l'an dernier par l'impôt sur la fortune immobilière. Un rapport attendu puisqu'Emmanuel Macron avait renvoyé à cette évaluation pour ajuster, si nécessaire, la réforme, si elle ne montrait pas sa pleine efficacité. Bonjour Anne-Laure Junet.
Bonjour.
Chef du service économie de France Culture, aujourd'hui pourtant, les experts sont bien en peine de tirer des conclusions définitives. Cela dit, ce rapport nous fournit quand même un certain nombre de données intéressantes sur la fiscalité des hauts revenus.
Oui, le temps de la recherche n'est pas le même que le temps politique. Voilà ce que reconnaît le président de ce comité d'évaluation placé sous l'égide de France Stratégie, un organisme rattaché à Matignon. Et il faudra, dit-il, plusieurs années pour aboutir à des conclusions fermes. On rappelle que l'idée défendue par le gouvernement, c'était le ruissellement. Les plus riches, ainsi dégagés de l'impôt sur la fortune, réinvestiraient une partie de ces sommes dans l'économie, notamment dans les entreprises. Trop tôt donc pour le dire aujourd'hui, même si les conséquences, elles, sont bien réelles, avec un impôt qui a été divisé par 3,5. Alors il y a quand même des données qualitatives, puisque les experts ont interrogé une centaine de gestionnaires de patrimoine. Il en ressort que le surplus de revenus a été réinvesti, souvent dans des assurances-vie, voire dans des dépenses courantes qui ont alimenté la croissance, mais pas donc bénéficié directement au financement des entreprises. Parmi les éléments qu'on retient aussi dans ce rapport, des données sur les bénéficiaires du passage de l'ISF à l'IFI. 5% des foyers aux revenus les plus élevés perçoivent 57% des gains dus à la réforme, un gain moyen estimé par ailleurs à 6500 euros.
Et alors, qu'est-ce que le gouvernement va faire de ce rapport?
Eh bien, sans doute s'appuyer sur les éléments qui vont dans le bon sens pour conforter la réforme. C'est d'ailleurs ce qu'a déjà commencé à faire hier Bercy, pointant du doigt d'autres paramètres soulignés par les experts, l'attractivité qui s'améliore, l'investissement dans les PME qui ne semble pas avoir souffert. On attend quand même, la semaine prochaine, les conclusions d'un autre rapport présenté par le Sénat qui n'a pas voulu s'associer à ce comité d'évaluation et on peut s'attendre à une bataille politique autour de toutes ces données, utilisées selon la façon dont on se place pour défendre ou non la réforme.
Les précisions d'Anne-Laure Jumet en direct pour France Culture. Autre gros dossier du gouvernement, l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen. Le Premier ministre Édouard Philippe l'avait promis hier. La liste des produits stockés dans les entrepôts qui ont brûlé jeudi dernier a été dévoilée par la préfecture de Seine-Maritime. Plus de 5200 tonnes de produits chimiques ont été détruits dans l'incendie, dont principalement des additifs multi-usages. Il y avait aussi des détergents, des solvants, des améliorants de viscosité. Tous ces produits ne sont pas dangereux, affirme la préfecture dans un communiqué. La dangerosité dépend notamment de la quantité présente, du devenir des molécules après avoir brûlé et de la manière dont on est exposé. Les autorités ont peut-être mis trop de temps à réagir car la crainte chez les habitants est déjà bien installée. Et ce n'est pas la publication de cette liste qui va arranger les choses. Au même moment, hier soir, 2000 personnes environ manifestaient à Rouen pour réclamer des comptes à l'entreprise Lubrizol et à l'État. Sur place, le reportage de Thibault Lefèvre.
Les représentants de l'État cherchent depuis jeudi à rassurer. Véronique aurait préféré être informée.
On nous prend pour des andouilles, mais c'est incroyable. Et je suis vraiment malheureuse parce que j'ai toujours cru en la politique. Je crois vraiment plus en ces gens-là et c'est quand même très grave.
Mais vous n'êtes pas complotiste?
Non, je suis flûtiste. Ce que les je vous dise, je suis plutôt cool comme fille en général. Mais il faut vraiment arrêter de se foutre de nous.
Une défiance récente pour cette professeure d'une cinquantaine d'années qui participe depuis quelques semaines aux marches pour le climat.
Il y a un toit d'amiante qui a cramé et on nous dit que c'est pas grave. Pourquoi les pompiers qui étaient sur le site, ils sont malades là? À l'hôpital, ils ont déclenché le plan blanc. On nous a rien dit. Un peu de transparence, un peu de décence.
Les autorités ont communiqué sur l'amiante?
manger des pommes.
Un trait d'esprit qui fait sourire Bernard, le mari de Véronique. Il avoue pourtant avoir désormais très peur.
Pour cette fois-ci, le coup est parti. Cependant, à 60 km d'ici, il y a deux centrales nucléaires. Si demain c'est géré comme ils ont géré cette crise, on est statistiquement mort, ou tout au moins contaminé. Ça fout la trouille.
Plus proche de Rouen, les sites Seveso, classés seuil haut comme Lubrizol, il y en a 7 dans l'agglomération.
Et par ailleurs, 160 fûts en état délicat doivent encore être évacués du site de Lubrizol. Autour des policiers de descendre dans la rue, aujourd'hui, une marche de la colère est prévue ce midi à Paris à l'appel d'une intersyndicale inédite depuis 2001. Les forces de l'ordre espèrent entre 15 et 20 000 participants. Les raisons du malaise sont multiples et profondes. Écoutez Loïc Travers, secrétaire national du syndicat Alliance en Ile-de-France, rencontré la semaine dernière lors d'une autre manifestation.
L'état d'esprit est à l'image du nom qu'on a donné à cette manifestation, c'est la manifestation de la colère. Manifestation de la colère pour plein de raisons. La première, c'est le suicide. Vous savez qu'on est une catégorie socio-professionnelle extrêmement touchée. 50, 51, on ne va pas chipoter sur les chiffres, mais en tout cas, c'est trop. Et c'est surtout aujourd'hui inarrêtable. Et on demande effectivement que le plan anti-suicide soit mis en place et que ce ne soit pas simplement des mots. Mais c'est tout le reste, c'est les véhicules qui ne marchent pas dans les services, c'est des locaux dégrattés, dégueulasses, à la fois pour nos collègues, mais aussi pour les victimes qui viennent parfois déposer plainte. C'est des moyens qu'on n'a plus. Je vais vous donner un exemple, 20 000 collègues ont aujourd'hui leurs arrêtés d'avancement ou d'échelons qui sont bloqués suite à un problème informatique sur notre logiciel Dialogue. Enfin voilà, quoi, c'est tout ça qu'on dénonce, c'est-à-dire qu'on sacrifie, les policiers sacrifient le week-end, mais aussi depuis le début des attentats, depuis 2015. Et puis quand vous voyez autant de choses qui sont gérées à la petite semaine, eh ben, à un moment, on n'en peut plus et il faut bien exulter d'une certaine façon.
Loïc Travers du syndicat Alliance au micro de Vianney Smiarovski. Nicolas Sarkozy sera bien jugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. La Cour de cassation a confirmé définitivement hier le renvoi en correctionnel de l'ancien président de la République. Il est poursuivi pour avoir dépassé le seuil de dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros. Un procès s'annonce également pour l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. 25 ans après les faits, il est renvoyé devant la Cour de justice de la République. Dans l'affaire Karachi, son ancien ministre de la Défense, François Léotard, sera jugé lui aussi, tous les deux pour complicité d'abus de biens sociaux.
7h07, c'est la suite du journal dans les matins de France Culture, le journal de Margot Delpierre. Le candidat à la présidentielle tunisienne, Nabil Karoui, reste en prison.
La justice a rejeté hier la dernière demande de libération de cet homme d'affaires et patron de télévision. La campagne pour le deuxième tour de l'élection qui se tiendra le 13 octobre va donc commencer en l'absence de celui qu'on surnomme le Berlusconi tunisien. La correspondance de Maureen Mercier.
La justice reste sur sa ligne. Elle refuse la demande de libération de Nabil Karoui en prison depuis le 23 août. C'est le cinquième refus depuis son arrestation. Conséquence, alors que nous sommes à moins de 2 semaines du deuxième tour de la présidentielle, Nabil Karoui ne pourra pas faire campagne lui-même. C'est sa femme et son équipe qui devront continuer de s'en charger. Si Nabil Karoui n'est pas élu, nous déposerons un recours pour contester les résultats pour manquement au principe de l'égalité des chances. Les mots des avocats et conseillers de Nabil Karoui au sortir du tribunal sont clairs, ils contesteront les résultats en cas de défaite. Et la présidentielle, deuxième de l'histoire du pays depuis la Révolution, a du plomb dans l'aile. En cas de recours, il n'y aura pas de président pour proposer un Premier ministre au Parlement, donc pas de nouveau gouvernement. La Tunisie, qui a besoin de l'exact contraire, inaugure une période d'instabilité politique extrême. Nous rêvons de stabilité pour relancer l'économie, on va encore s'enfoncer. Le commentaire devant le tribunal d'un Tunisien désabusé.
Maureen Mercier en Tunisie. La Corée du Nord a tiré ce matin des projectiles non identifiés en direction de la mer. Des tirs condamnés par le Premier ministre japonais. Ces tirs violent les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, dit-il. À Hong Kong, des centaines de personnes se sont rassemblées ce matin devant une école. Celle du manifestant de 18 ans, blessé hier par un tir à balles réelles de la police. Des affrontements ont éclaté en marge des actions menées pour réclamer des réformes démocratiques. Les négociations pour former un gouvernement d'union étaient déjà au point mort. La situation politique risque encore de se compliquer en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou comparé aujourd'hui pour corruption, fraude et abus de confiance. Il est menacé d'inculpation dans 3 dossiers différents, Alice Froussard.
Le premier dossier dans lequel Netanyahou est mis en cause concerne des cadeaux dont il aurait bénéficié avec sa famille, cigares, champagne rosé, bijoux, voyages à l'étranger, même des places pour un concert de Mariah Carey, le tout d'une valeur estimée à 230 000 euros en échange de divers services politiques rendus à 2 milliardaires. Dans un autre dossier, il est soupçonné d'avoir proposé un arrangement au propriétaire du quotidien Yediot Aharonot, baisser la diffusion de son principal concurrent, le gratuit Israel Hayom, en échange d'une ligne éditoriale plus favorable. C'est en tout cas ce que révèlent des enregistrements téléphoniques. Et puis, dans la dernière affaire, la plus étayée, on lui reproche d'avoir accordé des concessions réglementaires à Shaul Elovitch. C'est un de ses amis de longue date, à la tête de la plus grande entreprise de télécommunications Bezeq et du journal Walla. Cet arrangement avec le Premier ministre lui aurait rapporté des centaines de milliers d'euros en échange, là aussi, d'une couverture médiatique pro-Bibi. Le Premier ministre a toujours nié. Ses avocats vont donc devoir convaincre le procureur général, un homme connu pour sa rigueur et sa défense de l'état de droit. Un rendez-vous judiciaire qui tombe mal pour le Premier ministre qui tente en ce moment de former un gouvernement. Mais précisons-le, en cas de mise en examen, s'il était reconduit, rien légalement ne le forcerait à démissionner. Il faudrait attendre l'épuisement de tous les recours en appel et cela peut prendre plusieurs années.
Une audition à haut risque pour Sylvie Goulard, l'ex-ministre des Armées désignée par Emmanuel Macron pour intégrer la Commission européenne, sera entendue par les eurodéputés aujourd'hui. Elle est sous le coup de deux enquêtes. Ils vont la questionner d'abord sur l'affaire des emplois présumés fictifs des eurodéputés Modem et sur son travail de consultante cher payée pour un think tank américain. Le temps ce mercredi ne s'arrange pas. Toujours de la pluie qui va traverser la France du sud-ouest au nord-est. Les températures sont comprises entre 10 et 19 degrés ce matin. Cet après-midi, Météo France prévoit 14 degrés à Lille, 15 à Brest et Belfort, 18 degrés à Lyon et Bordeaux et seulement 16 degrés à Paris, Guillaume.